Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 2. En promettant au docteur Hébert de ne pas quitter l'hôtellerie du faubourg Saint-Honoré, Roger de Vaudrey n'avait cependant pas oublié le rendez-vous pris avec Picard. Il savait que le brave serviteur, qui s'était déjà tant compromis pour lui, l'attendrait dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs, ainsi qu'il en avait été convenu entre eux. On se souvient également que le vieux domestique avait manifesté l'intention de s'affubler d'un travestissement qui le rendit méconnaissable pour les exemples et les autres employés de la police. Les terreurs de Picard étaient-elles justifiées? C'est ce que l'on ne tardera pas à voir. Disons tout de suite qu'en ce qui concernait le chevalier, M. de Lignières avait voulu et obtenu que rien ne transpirât de l'évasion du prisonnier de la Bastille. Le guichetier Remignac lui-même, malgré la singulière aventure qui lui était arrivée et l'accroc fait à son amour-propre de geôlier, avait gardé le silence le plus absolu. Il est vrai de dire qu'au lieu de le punir sévèrement, ainsi qu'il avait mérité de l'être, on avait payé son silence et la carrière du guichetier ne se trouvait nullement compromise par l'événement tragicomique dont il avait été le héros. Quel était le but du lieutenant de police? Espérait-il simplement faire arrêter le fugitif avant que la nouvelle de l'évasion ne mît les rieurs du côté du chevalier de Vaudrey? Nourrissait-il au contraire l'espoir que son neveu finirait par comprendre qu'il devait se rendre au désir de Sa Majesté? Quoi qu'il eût arrêté dans son esprit, il n'en avait rien laissé percer. Au surplus, l'état de la comtesse, ainsi qu'on l'a appris par la conversation échangée entre le docteur Hébert et le chevalier, avait empiré de façon à inspirer les plus sérieuses inquiétudes. Partagé entre l'affection sincère qu'il portait à Diane et les éternels soupçons qui le tenaillaient, le comte de Lignières se montrait vivement affecté de l'aggravation de la maladie que le docteur avait en vain essayé de combattre. L'événement qui avait motivé cette aggravation était présent à l'esprit du lieutenant de police. Il n'avait pu, pendant les premiers jours, revenir sur ce sujet avec la comtesse tombée après sa syncope dans un état de prostration absolue. Puis la fièvre était survenue avec des alternatives de délire et d'abattement. La maladie prenait ainsi un caractère aigu qui, épuisant les forces de la comtesse, pouvait amener à bref délai un dénouement fatal. D'inquiet qu'il avait été au début, M. de Lignières passait maintenant par de terribles angoisses. Le docteur Hébert ne lui avait pas laissé ignorer que la ressource de la science était épuisée et que la situation ne laissait rien moins que de l'inquiéter de plus en plus. À partir du moment où il eut connaissance de la gravité du mal, le comte ne quitta plus l'appartement de la malade que pour vaquer au plus pressé de sa besogne de magistrat. Le jour, il venait 100 fois s'informer si la situation s'était modifiée. La nuit, il veillait, assis dans un fauteuil, au chevet de la comtesse. Et là, pendant de longues heures de cette veillée, il s'abandonnait aux plus sombres réflexions. Il évoquait le souvenir de cette journée fatale où il avait acquis la conviction que la comtesse était, sinon complice, du moins confidente des amours de Roger. Il se rappelait le visage troublé de Madame de Lignières lorsque celle-ci l'avait vu pénétrer à l'improviste dans la chambre de l'ouvrière. Et ces mots, prononcés par la comtesse, lui revenaient à l'esprit. « Laissez-moi sortir. Laissez-moi arriver jusqu'à elle. » Il avait insisté pour savoir à quelle personne la comtesse pouvait s'intéresser, au point de vouloir à tout prix arriver jusqu'à elle. Alors, Diane, affolée, avait commencé. « De qui ? Mais de... » La fin de la phrase s'était évanouie sur les lèvres. Et pressée d'achever, la comtesse était affaissée, inanimée sur un siège. Depuis, le comte entendait continuellement bruire à ses oreilles ce commencement de phrase qui pouvait être les premiers mots d'un aveu. Il allait apprendre peut-être ce secret de la profonde mélancolie de l'épouse qu'il chérissait. Ce secret qu'il avait cru trouver dans les annales de la police lorsque Roger avait arraché la page où il était question de la famille de Vaudrey. Et depuis, assis au chevet de la malade, il avait attendu, morne, dévorant sa jalousie, qu'une amélioration survenant dans l'état de la comtesse lui permît de l'interroger de nouveau. N'espérait-il pas, dans son insurmontable besoin de découvrir la vérité, que le délire aidant, la malade parlerait, et que dans cette divagation de l'esprit surmenée par la fièvre, il entendrait des lambeaux de phrases, de simples mots qui le mettraient sur la voie de ce secret qu'il ne pouvait parvenir à connaître. Une nuit, il s'était cru sur le point d'atteindre son but. La fièvre faisait rage dans le cerveau de la malade. À plusieurs reprises, la comtesse avait eu des soubresauts dans son lit, comme pour s'en arracher. Puis elle tendait les deux bras dans le vide, comme si elle eût voulu atteindre quelqu'un, et ses lèvres entr'ouvertes remuaient. Elle allait parler sans doute. Debout, M. de Lignières approchait son oreille du visage de la malade. Il attendait. Mais les lèvres convulsées de la comtesse demeuraient muettes. Qui sait si elle ne répondrait pas à ses questions, se dit-il alors. Il fut rappelé à lui-même par la présence de la femme de chambre, qui se tenait toute émotionnée et tremblante au pied du lit. « Envoyez tout de suite chercher le docteur Hébert !» commanda le comte. La servante sortit en essuyant les larmes qui coulaient de ses yeux. Jamais, depuis que sa maîtresse s'était alitée, elle ne l'avait vue aussi agitée et dévorée par la fièvre. Elle la crut perdue et alla jeter l'alarme parmi les domestiques qui veillaient dans l'antichambre. Lorsqu'elle eut communiqué au valet de pied l'ordre que lui donnait M. de Lignières, le serviteur, tout attristé, se mit immédiatement en route. Demeuré seul, le comte se tordait les bras de désespoir, et dans son chagrin si violent, il suppliait la malade de le regarder, de lui parler. « Diane, Diane » murmurait-il en assourdissant sa voix. « Diane, parle, parle-moi » Doucement, il lui prenait les mains qu'il portait à ses lèvres. La malade fit un effort pour répondre. Ses lèvres s'agitèrent pour murmurer un mot, un nom. « Roger, Roger !» Puis les mains brûlantes serraient les mains du comte fou de douleur. Ce nom de Roger sonnait maintenant à son cerveau troublé comme le reproche d'une mourante. La comtesse voulait sans doute revoir ce neveu, cet enfant qu'elle considérait comme le sien. Elle l'appelait dans son délire, comme si, avant de mourir, elle eût voulu l'embrasser, le bénir. Qui sait, peut-être était-ce la suprême confidence de sa douleur secrète, de ce désespoir muet qui la tuait, qu'elle désirait faire à ce neveu bien-aimé? Monsieur de Lignières écoutait, le front profondément ridé sous la poignante influence des pensées qui s'agitaient dans son esprit. Mais la malade répétait toujours ce même nom. « Roger, Roger !» Il semblait qu'avec cette lucidité des moribonds, au moment suprême, elle eût deviné qu'on lui avait enlevé son enfant d'adoption pour l'enfermer dans un cabanon de forteresse. Elle s'était redressée et le visage tourné vers le comte, elle paraissait vouloir lui reprocher sa conduite envers son neveu. Monsieur de Lignières s'était précipité pour la retenir. Elle laissa doucement replacer sa tête sur l'oreiller. À ce moment, ses yeux s'entr'ouvrirent. La crise était encore une fois surmontée. Monsieur de Lignières s'accusait d'avoir séparé le neveu de la tante, qui maintenant le réclamait avec une désespérante insistance. Il s'en voulait d'avoir cédé au conseil d'une colère aveugle. Son âme s'attendrissait au spectacle des souffrances que personne, hélas, ne pouvait atténuer. Et il se disait que peut-être, au réveil, lorsque la fièvre aurait achevé sa période de violence, la vue du chevalier de Vaudrey serait pour la malade un soulagement, peut-être même une amélioration inespérée. Il se représentait alors Diane, ouvrant les yeux, cherchant du regard le jeune homme, et tournant ce regard vers lui, le bourreau, comme en un cinglant reproche. Monsieur de Lignières était sous le coup de l'émotion violente qu'il venait d'éprouver lorsque le médecin fut introduit dans la chambre. À sa vue, le comte se porta vivement au-devant de lui, et lui saisissant les deux mains, « Excusez-moi de vous avoir dérangé à une pareille heure, mon cher ami, » dit-il d'une voix tremblante, « mais il n'y avait pas à hésiter, j'étais fou. Oh, tenez, docteur, j'ai cru que j'allais la voir exhalant son dernier soupir. » Le médecin s'approcha du lit, hochant la tête, comme il l'avait déjà fait chaque fois qu'il avait été appelé à la suite d'une crise plus violente que les autres. Monsieur de Lignières observait anxieux la physionomie du praticien. En voyant M. Hébert hocher la tête, il lança au médecin un regard empreint d'angoisse. « Eh bien oui, » fit le docteur, « je sais ce qui a dû se passer. De l'agitation, une forte fièvre avec délire ?»« Oui, oui, » répondit le comte d'une voix saccadée, « le délire, et toujours ce nom, ce nom. » M. Hébert arrêta son regard sur le visage de son interlocuteur. « Elle a parlé ?» demanda-t-il. « Oui, c'est-à-dire qu'elle a prononcé à plusieurs reprises le nom de son neveu. « Roger ? Eh bien, c'est qu'elle désire le voir. Il faut qu'il soit ici, et au plus tôt. » M. de Lignières était devenu d'une pâleur livide. « C'est impossible !» dit-il. Le docteur, qui alors ignorait l'évasion de Roger, fit observer que M. le lieutenant de police avait assez d'autorité pour ouvrir à un prisonnier, peu dangereux du reste, les portes de la Bastille ou du donjon de Vincennes. Il ajouta qu'aujourd'hui, qu'il s'agissait de donner satisfaction à celle qui souffre là sous ses yeux, le devoir du comte de Lignières était tout indiqué. « Mais je ne peux pas, je ne peux pas !» répéta le comte avec une rage contenue. Le docteur Hébert eut un regard stupéfié. « Oui, reprit M. de Lignières à voix basse, hier c'eût été chose possible. Je serais allé moi-même au besoin chercher le prisonnier pour l'amener ici. Car hier, Roger était encore à la Bastille. Eh bien ? Eh bien, le chevalier de Vaudrey s'est évadé de la forteresse. Le médecin sursauta. Évadé ? Lui ? Oui, docteur. Et qui plus est, jusqu'à hier soir, pas un de mes agents n'avait pu retrouver sa trace. Monsieur Hébert s'était assis vivement impressionné. Pendant quelques instants, les deux hommes gardèrent le silence. L'un et l'autre étaient absorbés dans la pensée unique que la maladie ne laissait que bien peu d'espoir, lorsqu'on en était réduit à compter sur des émotions provoquées à dessein comme dernier moyen à employer. Le docteur Hébert connaissait trop l'attachement que ressentaient l'un pour l'autre la comtesse de Lignières et son neveu pour ne pas espérer que la vue du jeune homme à son chevet provoquerait une réaction salutaire. Aussi bien, pensait-il, ce serait également l'occasion d'un rapprochement entre l'oncle et le parent si peu enclin à l'obéissance. Donc, en venant ce jour-là chez sa sympathique liante, le médecin avait-il déjà ruminé la proposition qu'il comptait faire. Quelle ne fut pas sa stupéfaction à la nouvelle que le chevalier de Vaudrey avait réussi à s'évader. Cette circonstance détruisait toute sa combinaison. D'autre part, l'aveu que le magistrat avait fait de l'impuissance de la police à retrouver les traces du fugitif confondait le docteur. Cependant, dit-il, ce n'est pas moi qui puis me mettre aux trousses du prisonnier disparu pour le ramener ici. J'ai donné des ordres, riposta le comte. Il aurait peut-être mieux valu pouvoir donner des indications aux agents. Monsieur de Lignières eut un geste d'impatience. Mais, soit qu'il s'en fût aperçu ou non, Monsieur Hébert continua. Vous ne comptez donc absolument plus que sur le hasard pour faire retrouver le chevalier ? Monsieur de Lignières ne répondit pas. Dans ce cas, continua le docteur, je dois abandonner l'idée que j'avais eue et l'espérance que je caressais de la voir aboutir à un bon résultat. Et il répétait, se parlant à soi-même. C'est fâcheux, très fâcheux. Puis avec un soupir. Enfin. Il s'était approché du lit et observait le sommeil de la malade. L'agitation avait presque complètement disparu et le sommeil devenait de plus en plus normal. La respiration ne se percevait plus, accompagnée de ce gémissement de la poitrine manquant d'air. Le comte hasarda à mi-voix. Elle dort paisiblement. Hélas, répliqua M. Hébert, je crains bien plutôt qu'elle ne soit évanouie. Quoi ? Encore une syncope ? C'est ma conviction. Mais il m'avait semblé qu'elle s'était éveillée tout à l'heure. J'ai cru même pendant un instant que les yeux à demi ouverts, elle cherchait quelqu'un. Oui, Roger, parbleu. Et lorsqu'elle ne l'a pas vu, la déception éprouvée a provoqué la syncope. Mon Dieu, que faut-il faire ? Il faudrait retrouver le chevalier de Vaudrey au plus tôt. En parlant ainsi, le docteur Hébert semblait ne pas douter que, le cas échéant, l'oncle s'empresserait d'accueillir son neveu comme s'il n'y eût pas existé de désaccord entre eux. Et certes, en perspective du terrible événement qui pouvait, d'un moment à l'autre, le frapper dans ses plus chères affections, M. de Lignières eût passé outre à toute espèce de considération et eût fait capituler son orgueil et son courroux, augmenté encore par l'évasion de Roger, tout enfin pour pardonner sans condition. Pour le salut de la chère malade, il eût bravé toutes les ironies. Peut-être même, afin d'éviter un blâme tombé de très haut, eût-il prié Sa Majesté de lui donner un successeur à les lieutenants généraux de police. La situation ne pouvait être plus favorable au chevalier, et c'était peut-être manquer l'unique moment de voir s'accomplir pour lui des choses inespérées. Lorsque le docteur Hébert allait prendre congé du comte, en promettant de revenir dans la journée, juger de ce qui pouvait se produire, d'ici là dans l'état de la malade, celle-ci fit un léger mouvement et un long soupir s'exhala de ses lèvres. Aussitôt attentif, le praticien saisit le bras de la comtesse et consulta le pouls. « Diable, diable !» insinua-t-il en regardant M. de Lignières accouru au chevet. « Voici des indications absolument précises sur l'affection cardiaque que je redoutais, comme complication. » Et il ajouta encore plus bas. Oui, c'est bien le cœur qui est le plus gravement atteint dans toute cette mystérieuse maladie. C'est ce pauvre cœur qu'il faudrait soigner, intelligemment. Mais comment choisir le remède qui conviendrait le mieux? C'est là le secret que je voudrais découvrir. Au mot de secret, le comte de Lignières dressa l'oreille et sa physionomie prit une expression d'angoisse. Ce mot réveillait en lui toutes les tortures morales subies depuis de longues années et qui, timide au début, en était arrivé successivement à un degré intolérable de violence. Cependant, il se contint par un effort inouï de la volonté et dit au docteur « Supposez-vous, mon ami, que notre cher malade va éprouver une amélioration au réveil que vous annoncez ?»« Je l'espère, et c'est dans l'intention de pouvoir causer avec elle, sans la fatiguer, que je reste. » Et s'asseyant sur le fauteuil laissé libre par le comte, « Je vais observer. » La médecine est tout entière dans ce mot « observer ». Ainsi que l'avait pronostiqué M. Hébert, la malade ne tarda pas à ouvrir les yeux. Son regard, après s'être posé quelques instants sur le visage du comte et du docteur, embrassa successivement toute l'étendue de la chambre. Le docteur observait. « Qui cherchez-vous, comtesse ? » demanda-t-il en tendant la main à la malade, et avec un sourire forcé. « Vous ne m'attendiez pas si tôt, n'est-ce pas ? C'est votre faute si je suis ici à cette heure. Vous vous refuserez donc toujours à suivre exactement mes prescriptions ?» Monsieur Hébert avait retrouvé son air bonhomme pour ajouter « Voyons, que vous avais-je recommandé ?» Deux choses absolument faciles à m'accorder. D'abord, ne pas vous lever, quelque fatigue que vous éprouviez à rester au lit. Ensuite, il regarda la comtesse. Ensuite, de laisser votre imagination en repos. Et si vous avez obéi pour la première de ces deux recommandations, je suis convaincue que vous avez négligé l'autre. Monsieur Hébert avait repris son air soucieux, comme lorsqu'il voulait réprimander doucement. « Et c'est un tort, » fit-il, « un danger même dans l'état d'excessive faiblesse où vous vous trouvez. Tenez, maintenant que la fièvre décroît, vous devez éprouver déjà, j'en suis persuadé, l'effet de cette faiblesse. Allez-vous donc continuer à dédaigner mes prescriptions ?» Monsieur de Lignières s'était retiré un peu à l'écart, attendant la réponse. Mais au moment où peut-être elle allait se décider à parler, la comtesse aperçut son mari dissimulé dans la pénombre. Elle se tut, tandis qu'une légère rougeur sur sa joue disait au docteur qu'il l'avait devinée et qu'il savait bien ce qui se passait en elle. « Allons, » fit M. Hébert, « c'est un nouveau combat que je dois livrer contre cette fièvre provoquée par votre infatigable imagination qui veut toujours galoper. Enfin, je ferai tout ce que je pourrai pour sortir victorieux de cette lutte, pour laquelle je voudrais tant vous avoir comme allié. » Le docteur s'était levé afin de formuler une ordonnance. La comtesse profita de ce moment pour faire signe à son mari d'approcher. « Je vous remercie, monsieur le comte, lui dit-elle, de la sollicitude que vous me témoignez. Je sais que vous avez passé bien des heures auprès de moi. Aussi dois-je vous prier de prendre maintenant un peu de repos. Il ne faut pas négliger non plus vos occupations pour demeurer à mon chevet. Du reste, je vais mieux. » Et si je ne craignais de désobéir au bon docteur, qui me garde déjà rancune de mes désobéissances si fréquentes, j'aurais grand désir de me lever pour aller m'asseoir dans le boudoir, près d'une fenêtre où je verrais passer du monde, et peut-être quelques personnes qu'il me serait agréable d'apercevoir. » Monsieur de Lignières se contraignit. Son visage indiquait l'effort fait pour arriver à dissimuler ses impressions. Pour répondre aux paroles de la comtesse, il se renferma dans les strictes prescriptions du docteur, qui du reste vint à son secours. « Qu'entends-je ? » fit M. Hébert en s'approchant. « On parle de se lever ? Mais sachez bien que je suis tout à fait opposée à cette idée, que je prescris même le repos absolu dans cette chambre, et que je me rendrais complice d'imprudence qui pourrait avoir des résultats les plus fâcheux si je ne défendais pas la plus légère infraction à ce que je viens de prescrire. » Il avait pris dans les siennes une des mains de la malade, à la façon des pères qui cajolent les enfants, auxquels il faut faire accepter quelque chose de désagréable. « Voyons, madame la comtesse, laissez-vous donc soigner. Laissez-vous guérir, car nous ne saurions y parvenir sans votre consentement à la chose. » Diane eut un triste sourire. « J'obéirai, » dit-elle en levant les yeux sur les deux personnes qui se trouvaient auprès d'elle. Dans ce regard, il y avait une expression d'ineffable bonté et de douce résignation. Sur cette réponse, M. de Lignières et le docteur Hébert quittèrent la chambre. En accompagnant le savant médecin, le comte lui dit d'un ton ferme qui contrastait avec l'émotion violente qu'il devait éprouver. La comtesse désire ardemment voir son neveu. Je l'ai compris au sous-entendu des quelques paroles qu'elle vient de m'adresser. Je vous l'avais bien dit. Aussi vais-je immédiatement mettre en campagne nos meilleurs employés, exemples et agents du service. Et s'animant, je ferai fouiller Paris. J'enverrai du monde un peu partout, sur les grandes routes qui convergent vers la capitale. Et à moins que le chevalier de Vaudrey ne soit mort, il faudra bien qu'on le retrouve et qu'on me le ramène ici. À moins qu'il ne soit mort, avez-vous dit ? Et le regard scrutateur du médecin se riva sur les traits bouleversés du comte. Monsieur de Lignières était en effet singulièrement troublé. L'idée que Roger avait pu s'abandonner au désespoir lui était venue à l'improviste. Et maintenant qu'il connaissait l'influence que pourrait avoir sur l'état de la comtesse la présence du neveu tant affectionné par elle, il avait de terribles pressentiments sur la fin violente du jeune homme. Le docteur observait toujours. Au bout de quelques instants, M. Hébert répondit « Qu'est-ce qui peut vous donner à supposer que le chevalier de Vaudrey ait pu attenter à ses jours ?»« La folie, qui envahit son esprit au point de lui faire oublier toutes les convenances et de le pousser à des extravagances que j'ai dû réprimer. »« Ah ! En ce cas, monsieur le comte, ce serait un très grand malheur, et je ne vous dissimulerai pas que ce coup terrible serait pour moi la certitude que ce malheur serait suivi d'un autre. »« Quoi ? La comtesse ?» ne survivrait pas à la nouvelle que, tôt ou tard, il faudrait bien lui communiquer. » Après avoir prononcé ces mots avec une sombre tristesse, le médecin s'inclina pour prendre congé. Cette fois, M. de Lignières ne le retint pas. Et dès que M. Hébert se fut retiré, il se dirigea avec une précipitation fiévreuse vers son cabinet de travail. Il sonna. L'huissier parut. « Faites entrer M. Marest, » commanda le lieutenant de police. Moins d'une minute plus tard, l'employé parut sur le seuil. « Eh bien ?» interrogea le comte. « J'ai fait exécuter des rondes dans tous les quartiers. Sans résultat, sans doute. » Marest s'inclina. « Que disent les rapports de vos hommes ?»« Nulle part on n'a pu découvrir... »« Assez, monsieur !» L'agent baissa la tête, vivement impressionné par la colère du comte. M. de Lignières s'était levé et marchait à grands pas. Tout à coup, s'arrêtant devant Marest. « Votre police est mal faite !» écria-t-il avec force. « Vos agents procèdent d'une façon pitoyable. Je veux réformer tout cela. » Et avec un redoublement de fureur. « Votre système est exécrable. Je le briserai. Il faut en finir avec de ridicules traditions que vous suivez, vous et vos hommes, avec un déplorable entêtement. Je chasserai des employés maladroits, des agents sans initiative qui n'apportent ni intelligence, ni zèle dans leur métier. » M. Marest était pâle et un tremblement agitait tous ses membres. De nouveau, le comte s'arrêta devant lui, les bras croisés. « Qu'avez-vous fait ? Avez-vous seulement donné l'ordre de fouiller les hôtelleries et les auberges ? Quelques-unes, monseigneur, ont déjà été visitées. Quelques-unes ? Vous osez avouer que toutes n'ont pas été inspectées du bas en haut ? Que vous n'en avez pas fait ouvrir toutes les chambres ? Jusqu'au plus infect cabinet, où l'on donne pour quelques deniers un grabat à la nuit aux maraudeurs et aux voleurs ? Quoi ? Vous avouez avoir échoué partout, et il existe encore une auberge, un bouge, où vous n'avez pas établi de souricière. Il faut donc que ce soit moi qui vous enseigne votre métier. C'est inconcevable, inouï. Ah, je ne supporterai pas plus longtemps pareille incurie. Écoutez bien ce que je vais vous dire, monsieur. » Et d'un ton sévère. « Je vous donne 48 heures pour avoir repris le fugitif. Vous avez entendu ? Passez ce délai, je vous chasse, monsieur Marest, comme incapable. » Je saurai vous trouver un remplaçant qui exécutera mes ordres et s'adjoindra des agents habiles. » L'employé enfonçait ses ongles dans le feutre de son tricorne. Les paroles du lieutenant de police le flagellaient comme autant de coups de fouet. Immobile, les yeux baissés, le front inondé d'une sueur froide, il écoutait. Tout ce qu'il avait entendu lui bourdonnait dans le cerveau. Il se sentait perdu. « 48 heures ? » répétait-il mentalement. « Et au bout, la disgrâce ? La honte, la misère, car personne ne voudrait employer un agent de police chassé pour incapacité notoire. Alors, c'était la ruine. Et lui qui avait conçu tant d'espérance, qui comptait sur un avancement, tant d'années de service allaient être perdues pour lui. M. de Lignières le regardait toujours en roulant des yeux empreints de la plus violente colère. « Monseigneur, fit-il d'une voix tremblante, on obéira aux ordres de votre Excellence. » L'agent de police se trouvait sous le coup d'une fureur qu'il parvenait à faire passer sur le compte de la peur. Moins surexcité, moins aveuglé par la fureur, le lieutenant de police eut reconnu combien il était injuste envers un employé qui, récemment encore, lui avait donné des preuves de son habileté. Mais il fallait qu'il s'en prît à quelqu'un, et l'agent fut sacrifié à son courroux. Au surplus, le comte continuait toujours sur ce ton qui ne s'apaisait pas. « Je vous ai fixé le temps que je vous accorde pour le succès de vos recherches. » Cette fois, Mareste hasarda une observation. « Monseigneur, dit-il, daignera-t-il mettre à ma disposition une compagnie de soldats du guet ? Pourquoi cela ? N'avez-vous pas suffisamment d'agents à qui donner des ordres ? Oui, en temps ordinaire, mais pour faire ce que commande Monseigneur, il me faut le double, le triple de monde. Pour faire exécuter des recherches ? Oui, Monseigneur, car j'ai mon idée. Vous prétendez donc ? Faire visiter par mes hommes toutes les hôtelleries et auberges simultanément. Pourquoi cela ? Pour éviter que la personne recherchée n'échappe, si elle se cachait par hasard dans une de ces maisons. En effet, lorsqu'on aura vu dans un quartier que les agents opèrent des visites, comme nous allons en faire, il est certain qu'il se trouvera des gens pour aller donner l'éveil aux autres. Monsieur de Lignières regarda l'employé. Monsieur Mareste, les yeux toujours baissés, attendait la réponse. « Soit, lui dit le comte, je vais donner des ordres en conséquence. » Il s'était assis à son bureau et écrivit quelques lignes sur un feuillet. Puis, ayant scellé de ses armes un pli, il le remit à l'agent. Mareste allait se retirer. Le lieutenant de police le retint par ces mots. « Vous n'aurez plus d'excuses, si vous ne réussissez pas, monsieur. » Cette fois, l'employé se hasarda à relever la tête. « À moins, monseigneur, que le fugitif ne soit plus dans la ville. » Sans répondre, monsieur de Lignières libella quelques dépêches avec une fiévreuse rapidité. L'observation faite par l'agent avait porté juste et le chef de la police voulut en profiter. Lorsque toutes les missives eurent été scellées, il sonna et remit à l'huissier les plis pour être immédiatement portés à leurs adresses. Mareste était demeuré à la même place. « Vous pouvez vous retirer, » dit le comte, « et souvenez-vous des ordres que je vous ai donnés. » L'employé s'inclina très bas et sortit.